Gilles Jacob, nous avons donc le plaisir de vous recevoir pour le festival N'aura pas lieu, roman chez Grasset, il est bien écrit roman. Alors je ne connais pas votre bibliographie absolument par cœur. Est-ce que c'est le premier roman ?
J'avais fait un roman en 1969 qui était chez Grasset déjà et qui s'appelait Un jour une mouette. C'était l'histoire d'un adolescent sur les plages normandes.
1969.
Et donc, vous voyez, je reviens à ma maison d'origine et j'entends bien y rester jusqu'à la fin des temps.
Et alors pourquoi ? Parce qu'évidemment on va y revenir, mais là on va comme ça parcourir des grands moments de l'épopée de Cannes. Pourquoi avez-vous choisi de le faire par le biais du roman ? Bon, évidemment vous avez déjà publié vos souvenirs, vous avez beaucoup raconté, mais pourquoi cette envie d'aborder cette histoire cannoise par le roman ?
Et en fait je voulais à la fois... Parce que moi, je suis lecteur aussi. J'avais envie d'écrire le livre que j'avais envie de lire, c'est-à-dire l'intimité des stars, les coulisses du festival, ce que le public ne connaît pas, finalement. J'avais écrit, il y a quelques années, La vie passera comme un rêve, qui était mon autobiographie, mais qui se passait de mon temps, c'est-à-dire les années 80, 90, 2000. Et là, j'ai voulu faire ce que les Américains appellent un prequel, c'est-à-dire on avance, et là, nous sommes en 1952, c'est une fresque romanesque sur 20 ans, jusqu'en 1972. Et là, ce que je voulais, comme je n'ai pas connu des visus cette période, c'était l'inventer. Et donc, ça m'a beaucoup amusé. Dès le départ, comme vous l'avez vu, on rentre sur à Nairobi, au Kenya, sur le tournage de Bogambo, film célèbre,
de John Ford,
qui va passer ce mois-ci sur Arte, d'ailleurs, que les gens pourront voir. Donc, John Ford, Clark Gable, Ava Gardner, Grace Kelly, pour un jeune journaliste qui arrive pour 5 jours sur un tournage, qui dit mieux ? Alors, on se dit, mais de qui va-t-il tomber amoureux ? Est-ce que ce sera d'Ava ? Est-ce que ce sera de John Ford ? Sûrement pas. Non, il tombe amoureux de la sœur d'Ava Gardner, qui s'appelle Bappy, qui a 10 ans de plus qu'elle, et qui est, en somme, sa maman, sa confidente, son avocate, son agent, elle la protège.
Alors, pardon, mais je devrais peut-être le savoir, mais est-ce que cette sœur, Bappy, a existé ou pas ?
Tout est vrai. Tous les personnages sont vrais, sauf le personnage principal qui s'appelle Fabas, qui est un composite de mon prédécesseur qui s'appelait Robert Favlebray, qui a été 38 ans président du festival, qui a fait le festival. Son successeur, Maurice Bessy, un peu de moi, vous l'imaginez, bien que le film s'arrête avant que je rentre en fonction.
Le film, vous avez dit, joli lapsus.
Ça arrive à chaque coup. Je ne peux pas l'éviter, parce qu'en effet, c'est assez cinématographique comme récit. Mais mon maître, c'est Hemingway, c'est-à-dire l'Afrique, les grands paysages, c'est un peu le Kilimandjaro, le Kenya. Et donc, toute référence gardée. Hein. Et puis John Huston, John Huston qui a fait aussi des films d'aventure.
Mais alors, pourquoi entrer dans le livre, justement, par ce film Mogambo ? Est-ce que pour vous, il représente quelque chose de particulier ?
Ben oui, parce que mon livre est aussi sur la disparition des espèces, que ce soit les papillons, que ce soit les êtres humains, puisque dans la dernière partie, c'est l'amour chez les seigneurs, puisqu'ils ne se quittent pas, c'est l'amour éternel. Et donc, cette disparition des espèces, il fallait trouver une sorte de prototype du cinéma hollywoodien de l'âge d'or. Et Mogambo représente exactement ça. Comme c'était en 52, là où je voulais commencer, j'avais pas le choix, il fallait plonger.
Un mot sur le titre, le festival n'aura pas lieu. Je me disais que c'est peut-être un titre en forme d'exorcisme pour vous, que c'est peut-être ce que vous avez pendant toutes les longues années où vous avez été à la tête du festival. C'était votre hantise principale.
C'est exactement ça. Et alors, dans le livre, j'essaye de raconter par moments les époques où le festival a failli ne pas avoir lieu. Il y a 50 pages sur mai 68, vu à travers les yeux du directeur du festival, qui n'a qu'une idée en tête, c'est que le festival continue, alors que les Truffaut, les Godard, les Polanski, les Louis Malle, qui descendent de Paris ou qui sont au jury, veulent que ça s'arrête. Et l'idée qu'il trouve, enfin que j'ai inventée, pour que ça ne s'arrête pas, c'est de disparaître. Parce qu'il faut le directeur du festival pour arrêter le festival. Et donc, il se cache. Mais se cacher dans Cannes, c'est pas commode. Et donc, on finit par le trouver. Et c'est cette lutte entre « je veux arrêter, je ne veux pas » qui constitue un des nœuds du livre. Et c'est la fragilité du festival.
Alors, ce qui nous vaut d'ailleurs cet épisode de mai 68, une belle galerie de portraits, en particulier un double portrait de Godard et Truffaut. Et on voit où vont vos préférences. Vous êtes beaucoup plus tendre avec Truffaut qu'avec Godard, non ? Je me trompe ?
Vous avez tout à fait raison, parce que Truffaut était un homme, d'abord, moi, que j'ai suivi toute sa vie. Il m'a aidé, il m'a fait faire une collection de livres. chez Attier à l'époque. Godard est plus solitaire. Truffaut est un merveilleux chien Saint-Bernard qui peut attaquer quand il veut. Et Godard, c'est plus le chat qui s'en va tout seul.
Alors, vous avez une autre métaphore canine dans le livre. L'un, donc Truffaut, était un Médor turbulent et affectueux. L'autre, un chat qui s'en va tout seul, un Minet dédaigneux.
Voilà, mais c'est un peu ça. Mais vous avez raison, il y a des portraits de gens qu'on a croisés. Polanski, Orson Welles, Fellini, Fritz Lang.
Oui.
Fritz Lang qui était un immense metteur en scène. Là, qui était
et que Godard a mis en scène dans Le Mépris,
absolument,
bien sûr.
Qui était dans ses années un peu finissantes. Et je le montre à deux reprises dans Un voyage en Italie, puisque quand mai 68 s'arrête, les gens repartent, mais il n'y a plus d'essence, il n'y a plus rien. Donc... il y a tout un pèlerinage qui part vers Rome pour essayer de s'en sortir. Et il y a Fritz Lang et un de mes héros est dans la voiture.
Je voulais revenir sur Mogambo. On se demande toujours où est la frontière. Enfin, vous avez dit tout à l'heure, tout est vrai. Par exemple, vous faites allusion, enfin en tout cas Lucien, ce journaliste au départ qui deviendra le président du festival de Cannes, donc assiste au tournage de Mogambo et découvre qu'il y a une love affair, comme on dit chez les anglo-saxons, entre Grace Kelly et Clark Gable sur le tournage. Elle est avérée?
Ah non, pas du tout.
Ah bon.
Si vous voulez, tout est vraisemblable,
oui.
Mais évidemment, il y a des choses inventées, c'est ça le romanesque. Mm-hmm. Et donc, en effet, là, j'ai imaginé que Clark Gable s'intéresserait plutôt qu'à Ava Gardner, parce qu'Ava Gardner, ça a été sublime, à une toute jeune fille qui l'aide en même temps. Il est un peu son maître en cinéma, parce qu'elle arrive, elle a 22 ans, elle ne connaît pas grand-chose. Et alors, ce qui m'amuse dans ces personnages-là, puisqu'il faut tout inventer, c'est que ça ne soit pas trop convenu. Par exemple, Grace Kelly, bon, elle est sublime, mais j'en fais une espèce de passionnariat qui veut mettre dans un film de John Ford réactionnaire un truc de gauche. Donc voilà les choses inattendues, mais j'espère qu'elles amèneront un sourire chez le lecteur, parce que ça cascade beaucoup, hein. Il y a beaucoup d'aventures, ils sont faits prisonniers, ils manquent mourir, il y a la révolte des momos.
Oui.
On est dans le contemporain, par hasard.
Un contexte politique très agité à ce moment-là.
Il y a 60 ans, on est exactement comme ce qui se passe en ce moment.
Donc, tout n'est peut-être pas vrai, mais je me disais que les portraits, eux, sont sans doute très justes. En particulier, j'ai été très sensible au portrait d'Ava Gardner. Bon, alors, c'est une mangeuse d'hommes, ça, vous le montrez bien. Et en même temps, on comprend bien que au-delà de cet aspect cannibale, il y a une fragilité très
énorme,
grande dans cette femme.
Énorme. Elle a été mariée d'abord avec Mickey Rooney, qui était très petit, puis ensuite avec Frank Sinatra, ils ne se sont pas arrêtés de se quitter, de se reprendre. Il a eu des enfants d'une autre femme, il en a eu un avec elle, elle s'est fait avorter pendant le tournage de Mogambo.
C'est raconté dans le livre.
Tout ça est exact. Donc sa vie était en même temps, elle avait besoin, elle ne pouvait pas être seule dans son lit. Et quand elle était sur un tournage, bon, on travaille dur, on se lève tôt, on finit tard. Il fallait qu'elle trouve... Il y avait des beaux hommes sur un tournage comme ça, des indigènes, des techniciens qui vous voulez. Et donc, c'est vrai qu'elle avait une vie amoureuse, sentimentale, très compliquée. Parce qu'elle n'en était pas heureuse non plus. Et à Madrid, quand les deux matadors se battent pour elle...
Grand moment.
Ça, c'est des grands moments du livre. Il y a toute une scène, parce qu'en fait, on les suit dans trois continents. On les suit en Afrique, on les suit en Amérique. Il y a beaucoup de scènes à Hollywood. Parce que je veux aussi montrer le métier de directeur de festival, montrer les difficultés, comment il s'y prend.
On y reviendra.
Et Bappy l'aide, justement, à tout ça. Et puis, à l'Europe, et ils finissent à Londres. Il y a Cannes, il y a Rome, il y a Paris, et il y a la Suisse. Parce que Favre Le Bray, ça c'est exact, habitait dans ce petit village au-dessus d'où habite Godard, qui s'appelle Bougie. Voilà, Bougie-Bougie-Villard.
Alors, vous revenez aussi sur des épisodes qu'on a peut-être oubliés. Cannes, on y voit toujours beaucoup de stars américaines, de grands metteurs en scène américains. Et dans le festival N'aura pas lieu, vous rappelez que dans les premières années, il y a eu un boycott américain de Cannes.
Ça,
en particulier lié à un fait qui aujourd'hui, évidemment, fait sourire. Ce scandale autour d'une photo de Robert Mitchum qu'on a vu soupeser les seins d'une starlette, Simone Silva. Là aussi, c'est tout à fait historique.
Absolument historique. Et Favre Le Bray est parti, donc Fabas, est parti aux États-Unis pour plaider la cause du festival auprès des ligues de vertu et des commères qui, dans les journaux, étaient très très puissantes. L'une s'appelait Luella Parson, l'autre Edda Hopper. Ouais. Et ces deux femmes-là faisaient droit de vie ou de mort sur les festivals. Donc il est allé essayer. Alors, il a engagé un agent pour les convaincre. Ça a été une scène que je raconte dans un restaurant de Los Angeles, épique, puisque les deux commères sont là, elles se jalousent à une autre table. Il y a Charlton qui déjeune avec justement
Mitchum
qui avait soupesé. La... Ouais. Ça s'est terminé tragiquement, puisque 2 ans après, Simone Silva s'est suicidée. Donc ça, je l'indique, mais bon. Mais ces scènes-là sont des scènes très enlevées qui font penser un peu à Black Edwards. Dans le genre de comédie.
Avec la même ironie et aussi la même cruauté en même temps. Je voudrais qu'on revienne sur la relation entre Bappy et Lucien, parce qu'à l'intérieur de ce roman sur l'histoire du cinéma et de Cannes, ce love, sans faire de jeu de mots, une très belle histoire d'amour, mais en même temps une histoire très particulière. Page 123, qui est peut-être résumée en ces quelques lignes. Pour lui comme pour elle, la sympathie s'est échangée peu à peu en affection, pas un coup de foudre, mais une habitude partagée qui se contentait de ce qu'elle avait, une compréhension réciproque quand le mot même d'amour aurait effrayé. On a l'impression en effet que ces deux-là, en même temps, sont irrésistiblement attirés l'un par l'autre, mais ont peur de tomber amoureux.
C'est exactement ça. Et puis, en fait, pendant toute la vie, ils s'aident l'un l'autre. Il y a des périodes où ils ne se voient pas, ça dépend des continents, puis ils se revoient. Lui est très amoureux et vers la fin de sa vie, il se sépare de sa femme avec qui il a des relations agréables, mais pas très vraiment un couple. Et puis il quitte le festival. Ça, j'explique comment les prétendants, la guerre de succession, etc. Ça, c'est assez cocasse aussi. Et puis il arrive à Londres et il tombe dedans. Et d'ailleurs, c'est le jour de la mort de John Ford. Donc il y a une scène très émouvante. Et puis, est-ce qu'ils vont rester ensemble? Lui voudrait beaucoup. Il tombe malade. Elle était loin à ce moment-là. Et puis elle revient, elle le prend chez elle. Elle le soigne, etc. Et là, on va voir ce qui va se passer. Je ne révèle pas la fin, mais c'est un peu l'amour éternel tout au long de la vie, aux différentes époques de la vie. Mais tous les deux resteront ensemble, quoi qu'il arrive.
Mais où êtes-vous allé chercher justement cette histoire?
Oh, je ne sais pas, ça c'est vraiment le roman. Hein. Je l'ai cherché nulle part. C'est sorti comme ça parce que j'avais besoin d'avoir en même temps l'histoire du cinéma, l'histoire d'Hollywood, l'histoire du festival, mais j'avais besoin d'avoir un focus sur deux personnages. Et comme c'est une histoire d'aventure et d'amour, il fallait que les rassembler. Et donc j'ai trouvé ça dans l'histoire du cinéma, mais il y en a plein. Hein.
Oui, mais je me disais qu'il y a peut-être aussi, vous êtes peut-être allé chercher dans... Vous savez, il y a toujours ce tropisme des journalistes littéraires qui cherchent à débusquer les éléments autobiographiques. Je me disais, vous êtes peut-être allé puiser dans votre histoire intime, personnelle, échafauder cette histoire d'amour.
Oui, bien entendu, les fantasmes ne manquent pas. J'ai fait un livre précédemment qui s'appelait « Le fantôme du capitaine ». Et c'était des lettres d'amour. Et là, il y avait des lettres d'amour, par exemple, il y en avait 6 à Juliette Binoche. La plupart, c'était une. Donc ça donne des indications sur les fantasmes amoureux, mais en même temps très pudiques.
C'est un livre aussi sur la réalité du métier de directeur d'un festival comme celui de Cannes. Et le quotidien n'est pas toujours forcément folichon, parce que le festival, c'est pendant la quinzaine, mais le travail en amont, c'est pendant toute l'année. Et page 250. 56, par exemple, vous écrivez, bien sûr, durant tout ce temps, plutôt que des pyramides et des temples khmers, il n'avait vu, donc Lucien, presque exclusivement que des salles de projection glaciale. La sélection s'effectuait en hiver. Il avait dormi trop peu dans des hôtels qui se ressemblaient, rencontré des producteurs surexcités et exigeants, des metteurs en scène pleins d'assurance et vite déçus, des journalistes inquisiteurs.
Ben voilà,
ben c'est pas drôle comme métier.
Ben vous avez décrit exactement ce qui se passe dans la réalité, puisqu'il faut beaucoup courir partout, il faut rencontrer les gens, il faut voir les films, des centaines de films, pas toujours bons, et surtout il faut passer un temps fou à expliquer pourquoi on ne les prend pas. Ça, c'est de la diplomatie plus que de l'amour du cinéma. Mais ça fait partie du métier, parce qu'il faut garder le contact avec le metteur en scène que vous ne mettez pas en sélection.
Mais heureusement, il y a un versant beaucoup plus enthousiasmant. Et oui, il était là, Fabas, et lui aussi se posait des questions. Le plus intéressant dans ce métier, c'est bien sûr la sélection, la découverte des nouvelles générations de cinéastes, l'aide au cinéma international, etc., etc. Qu'est-ce que, quand vous vous retournez sur toutes vos années passées à la tête du Festival de Cannes, quelle est la découverte, le talent, que vous, la pépite comme ça que vous êtes allé chercher, dont aujourd'hui vous restez le plus fier ?
Il y en a beaucoup. Hein. Mais la plus fière, c'est Jane Campion. Parce que Jane Campion, réalisatrice néo-zélandaise qui travaille en Australie, est venue avec 3 courts-métrages il y a très longtemps. Et on me montre ces 3 courts-métrages, on me dit, bah, prenez l'un d'eux. Je dis non, je prends les 3. Et elle a eu la Palme d'Or du court-métrage. Puis je l'ai reprise en compétition, elle a eu un petit prix. Et puis elle a eu la Palme d'Or avec la leçon de piano, The Piano en anglais. Et évidemment, c'est une carrière exemplaire. On ne peut pas trouver mieux pour découvrir quelqu'un et pour le mettre sur orbite.
Qu'est-ce qu'il y a de Jacob dans Fabas ?
Ben, il y a toutes les choses que vous dites, c'est-à-dire le métier de metteur en scène, le travail dur, mais en même temps, et puis c'est très dur de refuser sans arrêt, puisqu'on voit des centaines de films, on en prend 20. Vous imaginez, je ne suis pas du tout l'homme à brut, je ne suis pas un tueur, je ne sais pas dire non, donc il faut le faire... Faut le faire avec délicatesse et garder le contact. Mais ça, je l'ai beaucoup fait, ça. Donc, c'est pas le plus amusant du métier. Alors, qu'est-ce qu'il y a de moi dans le livre ? Voilà, des choses comme ça, des fantasmes, des rencontres rêvées, des aventures. Quand ils se retrouvent tous les deux dans la fosse de la Panthère Noire.
Avec Bappy.
Bappy et Fabas.
Ils s'égarent tous les deux, ils veulent s'éloigner. Ils tombent dans la fosse. Donc, la fosse qui avait été préparée pour le tournage. Le piège à Panthère.
Ils ne peuvent pas sortir. Et donc, ça, c'est plus Jim la jungle, enfin, les films d'aventure.
Tarzan.
Tarzan, les romans de notre enfance, La Bibliothèque Verte. J'aime beaucoup ça.
Il avait oscillé toute sa vie entre littérature et cinéma. Donc, c'est toujours Lucien, votre personnage. Et je me disais que c'était sans doute vous aussi, Gilles Jacob.
Complètement, c'est complètement mon cas. Puisqu'en réalité, j'ai préparé Normale Supérieure. Il a fallu que je rentre dans l'industrie pour des raisons que nous passerons. Et puis toute ma vie, j'ai écrit en réalité. J'ai écrit comme critique, j'étais 14 ans critique. J'ai écrit des livres et j'ai fait beaucoup de discours, de lettres, de mails, de fax, de téléx, tout ce que vous voulez. Et donc j'ai toujours écrit, mais j'avais cette espèce de nostalgie de la littérature. Et puis quand j'ai décidé de partir du festival, parce qu'on m'avait assez vu, il y a 5 ans, je me suis dit, je ne vais pas rester là à traînasser dans les coins. Et donc il faut que je revienne à la littérature. Et j'ai écrit 5 livres en 6 ans. Donc voilà, j'arrive.
Un jeune écrivain.
Un jeune écrivain, né en 30.
5 ans. Merci Gilles Jacob.
Merci.
Et donc
à vous.
On vous retrouvera.
D'être aussi bon lecteur.
Maintenant, je vous en prie. On vous retrouvera évidemment à Cannes.
Bien sûr, on vous y attend.